Et c'est autour du thème « Être disciple implique s'engager résolument dans la mission de faire des disciples ». Être disciple de Christ, cela implique que chacun de nous s'engage résolument, adverbe de manière, résolument, dans la mission de faire des disciples. Et lorsque nous venons de lire, nous avons commencé par les textes de Moïse. Et ce texte de Moïse, et ce texte qui parle de l'appel de Moïse, c'est Exode 3, 1 à 10. Et l'Église, le programme de cette semaine, a simplement voulu que nous puissions mentionner c'est quoi la mission. Et ce matin, je vais seulement dire une chose à Moïse devant le buisson sanglant, alors que lui croit, il veut faire un détour pour voir ce qui se passe. Moïse, il y a une voix, c'est la voix du Seigneur. Cette semaine, nous avons appris que celui qui a voix, c'est le Seigneur. Alléluia. La voix du Seigneur, la voix de l'Éternel, qui la voit? Il dit, les cris du peuple d'Israël sont parvenus à moi. Et donc Dieu est en train d'envoyer Moïse comme un canal pour amener la solution. Moïse, c'est le canal de la réponse de Dieu au cri du peuple. Moïse, c'est le missionnaire. Moïse, et il est envoyé pour le bien-être des peuples qui a crié. Alléluia. Et donc, lorsqu'on parle de la mission ou d'un disciple missionnaire, comme c'est le cas ce matin, c'est pour dire, le Seigneur a besoin que chacun de nous comprenne qu'être un disciple missionnaire, ça veut dire que c'est accepter d'être un envoyé. D'être celui qui est envoyé, envoyé où? Dans un monde où il y a des peuples qui crient, des hommes qui crient, des enfants qui crient, des femmes qui crient. Et la Bible dit que même la création qui gémit, et le Seigneur dit, j'ai écouté. Alléluia. Et donc la mission de faire des disciples, qui a été confiée aux disciples dans Matthieu 28, on a lu à partir du 16e verset, c'était une mission de se multiplier parmi toutes les familles. Les disciples, le Seigneur rencontre un groupe de disciples. La Bible dit, ils sont montés à la colline et ils ont vu le Seigneur. Et ils ont décidé de l'adorer. Ils se sont rendus compte qu'il était le Seigneur. Ils ont dit, c'est le Seigneur. Et chaque fois qu'ils l'ont vu après la résurrection, chaque fois qu'ils couraient vers lui, ils disaient, c'est le Seigneur. Lorsque Jésus rencontre le disciple qui était parti à la pêche, et que Pierre découvre qu'il y a un brasero, au-dessus duquel il y a un poisson, lorsqu'il leur dit, petits enfants, n'avez-vous rien trouvé? Et lorsqu'ils ont écouté la voix du Seigneur, Pierre a mis son manteau, il a couru, ils ont dit, c'est le Seigneur. Et lorsqu'ils rencontrent le Seigneur, au jour où le Seigneur leur dit, donne ce mandat d'aller faire des disciples, ils décidèrent de l'adorer. Et c'est donc ce petit groupe qui adore le Seigneur. Et à la réponse de Christ à cette adoration, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez donc, parce que vous avez le pouvoir, parce que moi, votre maître, j'ai le pouvoir, c'est pourquoi vous devez aller. Pour faire quoi? Des disciples parmi toutes les nations. Allez faire des milliers d'adorateurs. Alléluia. Et donc la stratégie, Ce qui est étonné, nous avons lu Exode plutôt 3, 1 à 10, et puis on nous a lu Matthieu 28. Si on considérait que Marc, Luc et Jean, qui sont des textes des évangiles, on tourne les pages et on arrive au livre des Actes des apôtres. Et je vais lire à partir du 41e verset des Actes des apôtres. Il dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières, pas dans la prière, dans les prières. C'est ce que Louis II dit. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Loua Dieu et trouva grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur faisait quoi? Ajoutait chaque jour à l'église. Donc à ce groupe-là que moi je vais appeler église ce matin, il ajoutait. Alléluia. Il me semble que si on tournait les pages et qu'on quitte Matthieu 28, la réalité c'est qu'on tombe dans Actes des apôtres chapitre 1er. Et l'église est en train de se reconstituer. Et ici il y a un certain Simon, nommé Pierre par Jésus. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit arrive, ces gens se mettent à parler à d'autres langues. Et on dit que ces gens sont ivres. Ils sont ivres. Et Pierre fait le fameux discours de Pierre qui a amené les foules qui l'ont écouté. 3000 environ. C'est soit approximativement moins ou approximativement plus de 3000 qui se sont ajoutés au petit groupe. Alléluia. Et c'est ça la stratégie. Ces gens, on leur dit sur la colline, quelqu'un attendrait qu'il quitterait là pour dire, toi tu prends la gauche, toi tu prends la droite, toi tu vas à Beni, toi tu vas à Isiro, toi tu vas à Izrangabo. Mais ce petit groupe prend une stratégie. Il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Il décide de rentrer à Jérusalem. Il décide de rentrer à Jérusalem pour commencer la stratégie d'atteindre les nations avec les disciples, l'évangile. Faire des disciples a commencé par Jérusalem. Alléluia. Et donc, nous allons parler de trois choses, et comme notre temps est court. La première chose, c'est faire des disciples commence à Jérusalem. Et ce qu'il faut faire m'a poussé à réfléchir autour de quelque chose et je vais vous demander de suivre ce que j'ai vu il y a une semaine, la semaine antérieure. J'ai vu quelque chose, je vais demander à l'équipe de médias de nous projeter les quelques images que nous avons. J'ai visité le village de Nyakoundé qui a connu beaucoup d'événements, de guerres. Et dans ce village, il y a encore beaucoup de choses. Mais j'ai été intéressé la semaine dernière par ces palmiers. Lorsque vous regardez ces palmiers, vous voyez que c'est un palmier à huile. Mais il y a déjà quelque chose qui a commencé. C'est comme si le propriétaire a oublié qu'il y a des oiseaux qui chaque fois viennent chercher, cueillir des fruits de cet arbre. Et ces oiseaux viennent parce que les oiseaux transportent des choses par leur bec. Lorsqu'ils viennent cueillir, ils viennent aussi chercher des endroits où abriter leur nid. Et ils laissent des grains, et des grains qui descendent avec l'eau de pluie. Et comme le palmier à huile a toujours quelque chose de la boue, et ça fait pousser les grains, et les grains donnent des sortes de lianes, de cordes sauvages qui commencent à entourer ces palmiers à huile. Suivant. Et donc, vous trouvez qu'avec le temps, les cordes là ont grandi et ont commencé à étouffer les palmiers à huile. Est-ce que là, on peut voir qu'il y a un palmier à huile? Non, il y a un arbre. Et j'ai passé beaucoup de temps avec mes quatre collègues avec qui on était en train d'analyser cette situation. Le palmier a déjà été étouffé. Et on a réfléchi sur la semence qui est tombée sur la bonne terre. Le palmier est tombé sur la bonne terre. Le palmier a commencé à donner du fruit. Le palmier a donné de noix, de palmes. Et les oiseaux ont trouvé qu'il y a la bénédiction. Mais les oiseaux sont venus avec des grains sauvages pour étouffer les palmiers. Suivant. Et le résultat final, c'est trop d'arbres. Vous trouvez que même le tronc du palmier est déjà à l'intérieur. Et donc le palmier a cessé de donner du fruit parce que le palmier est étouffé par les résultats de l'emporter. Alors, et nous avons réfléchi à ce sujet. Et les disciples, notre texte ce matin parle d'être disciple. Cela implique qu'on s'engage résolument dans la mission de faire des disciples. Et je me suis posé la question, c'est quoi faire un disciple? Est-ce que c'est évangéliser et laisser quelqu'un dire il a donné la vie à Jésus? Il y a des pays et des endroits où dès que quelqu'un donne, il lève la main, il récite la prière d'engagement. À partir de maintenant, je m'engage résolument à devenir chrétien. Je voudrais être l'homme ou la femme que tu voudrais que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Et vous les laissez partir. Ça tombe sur la bonne terre. Mais à la fois, il y a aussi d'autres messages qui viennent tomber sur la même terre. Et il y a quelque chose qui sort. Et ce qui est sorti, ça donne ce que nous venons de voir. Le palmier est étouffé. Et la Bible dit, tout arbre qui ne porte pas du fruit sera retraché. Et les apôtres, après avoir reçu le mandat d'aller et faire des disciples dans le monde, ils retournent dans leur Jérusalem. Et dans la chambre haute, pour se rassurer qu'ils ont d'abord l'équipement du Saint-Esprit et aussi cette force qui les aide à aller, selon Actes chapitre 1er, pour se rassurer qu'ils sont capacités par Dieu lui-même, qu'ils se capacitent à attaquer une congrégation. Ils se mettent ensemble, ils se mettent dans une chambre, ils se mettent dans ce que moi j'appellerais une chapelle. Pour prier, pour écouter le Seigneur, il faut noter que ses disciples ont aussi peur de la menace qui est à l'extérieur. Et le Seigneur pourvoit. Et lorsque le Seigneur pourvoit cette capacitation de Pierre, le Saint-Esprit donne sa révélation. Et Pierre se rappelle que c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit, qui à ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Les hommes et les femmes, ils vont donner les prophéties. Ils vont donner les messages. Les messages qu'ils ont reçus. Ils vont aller donner les messages au peuple qui souffre. J'ai écouté les cris du peuple. Mais le peuple a besoin de savoir qu'il est en souffrance. Alléluia. Notre frère nous a dit, j'ai fait le tour de la province. Et il y a vraiment ce que les Swahili appellent Mabomoko. Le peuple a besoin de savoir. Non seulement pour prier. Le peuple a besoin de savoir que Dieu connaît son cri. Et ce qui est surprenant, Paul, Pierre et ses compagnons, ses collègues, ils se concentrent sur la mission. Ce que les autres sont en train d'appeler la mission locale. Ils se concentrent sur un point. La tâche continuelle d'affermir les disciples. 3000 viennent de s'ajouter. On vient de faire la première croisade. Mais ils ne disent pas avant. Ils ne disent pas nous y allons. Nous voulons avoir 100 000. Non, ils commencent par une stratégie. Ce que nous appelons la tâche continue de l'Église. Il y a la tâche qui doit finir. Lorsque la Bible dit, la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux de la mer couvrent les sables du fond de la mer. Lorsque la parole dit que le message de l'Évangile sera prêché à toutes les familles, à toutes les nations, à toutes les tribus de la terre, avant que la fête vienne. Ça, c'est ce que nous disons. Il faut donc qu'il y ait une église locale avec un pasteur de la tribu qui a reçu l'Évangile. C'est la tâche d'atteindre le peuple. Mais parfois, cette tâche est facilitée lorsque l'on se concentre à la construction de l'église locale. Alléluia. Et ses disciples se donnent à se focaliser sur ceux-là qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Et c'est ça la difficulté de notre monde contemporain. L'église se focalise sur 4 choses comme priorité pour construire non seulement l'unité de l'église, mais la force de la mission, la force de faire des disciples. Ils se mobilisent entre eux pour faire de leur priorité la construction de la communauté de croyants, de la communion de croyants, sans laquelle il n'y a pas une mission. La construction de cette mission qui demande que chaque membre au sein de cette communion développe une intimité avec Dieu, une intimité avec lui-même, une relation avec les prochains, les frères, une relation avec son entourage. Alléluia. On m'a raconté une histoire récemment. Une famille a visité un zoo en Afrique du Sud. Et lorsqu'ils ont visité, ils se sont rendus compte qu'ils ont visité une girafe. Et il y avait, par la grâce de Dieu, elle a rencontré que la girafe avait déjà mis bas. Il y avait un petit girafe. Le bébé girafe était là et ses enfants étaient en train de contempler ce bébé girafe. Et les guides, comme vous savez, les guides touristes, ils sont là pour donner quelque chose de plus intéressant qui va vous attirer. Ils disent, par exemple, les autres, nous avons les meilleures girafes du monde. Nous avons des girafes les plus spéciales. Et puis, il a dit, une chose que vous devez savoir, c'est que le girafe est un animal plus particulier. Parce que les girafes, tellement, ils sont à troupeau. Il est difficile pour les girafes de se reconnaître et même de reconnaître leur génération parce que les girafes se ressemblent. Il est difficile pour un bébé girafe d'identifier sa mère, d'identifier celle-là de sa troupeau parce que les girafes se ressemblent. Mais ce qui est spécial pour les girafes, c'est que à la naissance, c'est aujourd'hui seulement depuis 3 mois que je viens de voir le bébé là. Le guide a dit à la famille, c'est depuis 3 mois que nous avons vu les bébés girafes là. Parce que les girafes, à la mise bas, les girafes retirent son bébé, il va le garder, il se rassure qu'il regarde le front. Il développe, chaque fois, il froisse son front, sur le front du bébé. Il froisse matin, midi, soir, nuit, pour que les yeux des petits et les yeux de la mère se rencontrent à chaque minute pendant 3 ans. Et les girafes, les bébés girafes découvrent et reconnaissent la tâche qui s'est développée lors de ces contacts. Chaque matin, chaque 9h, chaque 11h, les bébés girafes ne fait que cogner le front de sa mère. Et la mère ne fait que cogner le front du bébé girafe. Et il n'y a pas une possibilité qu'un bébé girafe ignore sa mère. Alléluia. Et il y a une leçon que nous devons tirer dans la première église qui a utilisé le même principe. Le développement de l'intimité. Le développement de l'intimité. Le bébé girafe développe l'intimité avec sa mère. Même s'il y a 100 000 girafes qui se ressemblent, le bébé girafe ne va jamais têter au sein d'une autre maman. Alléluia. Parce que le développement de l'intimité a eu lieu. Et la première église, 4 choses qui ont été développées pour développer l'intimité de cette église avec l'intimité et le fait d'être disciple avec celui qui les a envoyés. Chaque disciple, premièrement, s'attachait à écouter résolument l'enseignement des apôtres. Nous avons de plus en plus de gens qui écoutent tout ce qui passe, qui écoute tout ce qui tourne autour d'eux, qui écoute tous les messages. Et lorsque vous prêchez, on vous fait flanquer les messages qu'on a écoutés telle part. Les messages prospéristes, les messages de l'argent, les messages de millions, les messages de devenir multimilliardaire, les messages que le ciel, on ne peut pas suivre Jésus et souffrir. C'est le message qui circule, l'évangile de prospérité. Mais les disciples, de plus en plus, s'intéressent de moins en moins à s'attacher résolument à la parole. Et puis, la parole, le message des apôtres, les envoyés du Seigneur, les enseignements bibliques, comme des enfants nouveau-nés, la Bible nous dit, désirons le lait pur. Il y a cette caractéristique. Le lait pur de la parole de Dieu. Alléluia. Les disciples ont désiré écouter le message. Ils ont désiré écouter les histoires de comment Jésus est parti à Samarie. Comment Jésus a fait des miracles. C'est que la vie de Jésus, ils se sont appropriés le message de l'évangile. Et la Bible nous recommande de désirer les lait pur. La deuxième chose qui les a intéressés, c'était s'attacher résolument à exercer la communion entre eux. Ceci est un moyen efficace donc, de veiller les uns les autres, afin de croître dans l'amour de la restauration et la restauration avec les autres. Vous voyez, c'est cela qui va permettre aux frères, aux sœurs d'identifier les ennemis qui peuvent étouffer comme ce que nous avons vu. On ne sait pas identifier les ennemis qui étouffent notre foi si nous n'avons pas une communion. Lorsque nous lisons les textes que nous avons vus dans les premiers modules de la classe des disciples, la première semaine et la deuxième semaine, nous allons justement nous rendre compte que nous vivons dans un monde de cassures. Alléluia. Nous vivons dans un monde de cassures. Et même en Éden, les cassures ont commencé en Éden. C'est comme un verre qu'on a lâché et ce sont des cassures. La relation entre l'homme et Dieu, il y a une cassure. Une cassure des relations entre l'homme et lui-même. C'est pourquoi on trouve des jeunes, des grandes personnes qui ne font même pas confiance à eux-mêmes. C'est pourquoi on trouve des mariages qui sont déchirés. On trouve des hommes et des femmes qui ont triché dans leur mariage. Parce que nous vivons dans un monde de cassures. Des cassures des relations entre soi et l'autre. Des cassures des relations entre soi et la création. C'est pourquoi Jésus est venu. Et les disciples ont vite compris qu'il faut la restauration. Vivre ensemble, marcher ensemble, essayer de savoir que l'autre peut m'instruire. L'autre a l'expérience. Le témoignage de cet homme de Dieu, de cette servante du Seigneur, peut me permettre. La troisième chose, c'est qu'ils se sont laissés assidus à rompre le pain. Rompre le pain et partager. Il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit. C'est communier avec le Seigneur au milieu de la souffrance. Jésus lui-même amène le pain lorsque les disciples sont découragés. Et Pierre dit, je vais aller pêcher. Et Jésus lui-même, il apparaît le matin quand ils n'ont rien trouvé. Il dit, petits enfants, n'avez-vous rien trouvé? Et ils disent, non, maître. Et Pierre reconnaissait le Seigneur. Et il a trouvé le Seigneur qui avait installé un brasero avec du pain chaud et du poisson grillé. Et le Seigneur leur dit, petits enfants, venez manger. Et ce qu'il fait, il a rompu le pain. Et ils se sont rappelés. C'est la même manière qu'il a rompu le pain de communion. Lorsque nous voulons rompre le pain à l'église, les quatre prochains, nous allons encore rompre le pain. Nous les rompons parce que nous communions avec le Seigneur. Son corps a été brisé. Même dans un monde où il y a des cassures, il y a quelqu'un qui a porté ce brisement à la croix. Alléluia. Et nous communions avec lui. Même dans nos souffrances. Alléluia. Même dans cette destruction du Congo, nous avons besoin de communier. Comme église, nous avons besoin de nous rappeler que comme église. Mais ces gens ne se contentent pas de la Sainte Cène. Ils rentrent chez eux pour partager leurs patates douces. Ils rentrent chez eux pour partager ce qu'ils ont. Ils rentrent chez eux pour partager les habits. Il n'y a pas de personne qui marche nue. Il n'y a pas de personne qui sont sans souliers. Comme la personne là dont le révérend Manassé nous racontait que chaque jour à l'église, il était très joyeux. Quand il y avait la bénédiction, il est très joyeux. Et les gens lui disent, toi tu ne peux pas garder cela. Regarde que tes souliers ne sont pas propres. Jusqu'à ce qu'il s'est écrié, souliers ou sans souliers, alléluia. C'est parce qu'il avait manqué de frères. Ils regardaient qu'ils n'avaient pas de souliers, mais ils n'ont pas partagé leurs souliers. Nous n'allons pas aider les affaires de Béni si nous ne savons pas voir la misère autour de nous. Alléluia. Nous devons être capables de voir les hommes et les femmes qui souffrent. Nous devons être sensibles à la souffrance des frères, de Goma, de Rutshuru, de Béni, de Oicha, de Kwandruma, des hommes. Sapé, des hommes qui ont besoin de savoir et voir Jésus-Christ en nous. Alléluia. La mission n'est pas seulement amener les gens au ciel, c'est amener le bien-être holistique, amener le shalom, amener que Christ est mort. C'est pourquoi ces gens quatrièmement persévèrent dans la prière. Parce que l'Église n'a pas la solution à tous les problèmes sociaux. L'Église n'a pas la solution à tous les problèmes politiques. L'Église, nous n'avons pas, en tant que frères, sœurs, la solution à tout. Mais Dieu, il a la solution. Il est la solution. Il est notre tout. Et c'est pourquoi le psaume 46 dit, sachez que je suis l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel. qui te guérit. Et l'Église, être disciple implique donc qu'on s'attache à la parole, qu'on s'attache à la relation, à restaurer les relations dans sa communauté de foi, dans sa famille. Parce que ça ne sert à rien de venir ici et vous avez un problème en famille. Et lorsque nous allons rompre le pain, on ne sait pas si vous allez avancer, si vous allez reculer. Ça vous culpabilise. Le Seigneur a besoin que les membres de l'Église lisent ce verset qui dit « Sainteté à l'Éternel ». Les disciples doivent rechercher la communion. Les disciples, notre vie de disciples doit être caractérisée par une vie de prière qui contamine les autres et les événements autour de nous. Je dis bien une vie de prière qui contamine les autres personnes. Une vie de prière qui contamine les événements autour de nous. La vie de prière d'Élie avait contaminé les événements. Élie monte parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée pendant 3 ans et 6 mois. Il monte, il n'épargne pas ses genoux. Et sa prière contamine. Alléluia. Sa prière amène la pluie. Sa prière fait trembler Acab et Jézabel. Quelles sont les conséquences pour nous d'être des disciples? Et vous allez trouver qu'en Actes des Apôtres 2, le verset 43, donne la conséquence de cette mission locale. Que l'action du Saint-Esprit va se manifester. Lorsque la parole de Dieu va habiter en nous, lorsque nous allons être des gens dont les relations entre nous, avec Dieu, avec la créature et envers nous-mêmes est restaurée et claire. Et lorsque nous allons vivre une vie de communion, de sainteté, mais une vie de partage de tout. Et lorsque les choses qui nous dépassent, nous allons les arracher par la prière. Alléluia. Nous allons les arracher par la prière. Le Saint-Esprit va se manifester. Et on va assister à des signes et à des miracles. Une vie de communion s'apprécéda parmi les croyants. Une autre chose, c'est que le travail d'ensemble, ce que j'ai appelé le shalom, les gens vont cesser de dire shalom frère. Shalom signifie soyez réconcilié avec ton Dieu. Quand tu dis à quelqu'un shalom frère, shalom sœur, c'est dit sois restauré dans tes relations avec Dieu, que tu sois restauré dans tes relations avec toi-même, parce que je sais que tu as perdu confiance en toi-même. Tu ne crois même plus à ton diplôme depuis que tu as commencé à postuler il y a 3 ans. Sois restauré dans ta relation, frère, sœur. Sois restauré dans ta relation avec les autres qui t'ont blessé, que toi tu as blessé. C'est ça être disciple. Sois restauré dans ta relation avec ce que Dieu t'a donné autour de toi. Il t'a donné un chien. Comment tu l'en gardes? Il t'a donné un jardin. Comment tu l'utilises pour amener la paix, pour amener le shalom, pour reconstruire le pays à partir de chez toi. Alléluia. Je vais conclure en disant que maintenant la multiplication des disciples va se suivre. Dans ce texte, j'ai été vraiment frappé par une chose. Je ne vois pas ces gens planifier des campagnes d'évangélisation. Mais je trouve que l'action du Saint-Esprit a déclenché la campagne. Et après la prédication, 3000 personnes viennent. Et ils font de eux, des disciples, la marche d'assemblée des disciples. Et cette marche déclenche la contamination de l'environnement. La contamination des gens qui les voyaient. La multiplication des disciples dépend du shalom que nous sommes en train et que nous serons en train de propager. Bien-aimés, être disciple implique que chacun de nous s'engage résolument. À cette semaine où nous clôturons la semaine de la mission, où le Seigneur nous a dit au courant de la semaine, la moisson à faire est très grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Si nous demandons au frère Jean-Baptiste, il va nous dire qu'il a pleuré. Parce qu'il y a peu de gens qui voient la souffrance. Mais Dieu a vu les souffrances. Les semaines passées, il y a des gens qui disaient à Witcha, qu'est-ce que nous t'avons fait, Dieu, pour mériter ça? Lorsqu'un homme était en train de gorger une femme, par le coup, les cris de ce peuple, Dieu a écouté. Les cris de ce peuple qui ont besoin de Christ, Dieu a écouté. Mais c'est toi la solution. Mais être la solution, ça s'implique, frère, sœur, que tu t'engages résolument dans la mission de faire de ces gens des disciples. Et faire de ces gens des disciples, cela exige que tu te rassures que tu es inscrit à l'école des disciples afin d'être le sel et la lumière du Congo, d'être le sel et la lumière de Goma, le sel et la lumière du Nord Kivu. Autour de soi, le monde autour de soi, le monde autour de toi, c'est aller partout dans le monde, c'est le monde autour de toi. Être missionnaire ici et maintenant exige donc que chacun de nous se laisse diriger par la parole de Dieu. Intégrer cette parole dans notre vie chaque jour. Laissez que cette parole transforme notre vie de disciples missionnaires. Évitez surtout d'être à voyage seulement pour le ciel. Un homme a dit, il ne faut pas fuir le monde et se précipiter au ciel. Il ne faut pas non plus haïr le monde. haïr le monde, haïr le ciel et aimer le monde. Dieu nous appelle à voir la souffrance des autres. La souffrance spirituelle, la pauvreté spirituelle, économique, sociale, morale, éthique. Pardon. C'est pourquoi, frères, sœurs, je vais terminer en disant qu'en tant que disciple, chacun de nous doit s'engager dans une mission locale. D'abord, qui est construite sur trois choses. La vie de méditation et de l'étude de la Bible, frère. Il y a des gens qui ne méditent pas, qui ne lisent pas. Ils n'attendent que la louange et l'adoration pour se concentrer. Mais comment est votre vie, votre intimité dans la parole? Comment vous vous plongez dans cette parole? Comment vous la vivez? Deuxièmement, nous laisser construire par le Saint-Esprit et par les serviteurs et servantes de Dieu à qui Dieu a révélé sa parole. Et cela implique que nous sachions qu'il y a de faux enseignements autour de nous. C'est pourquoi j'ai amené cette réflexion du palmier. Il y a de faux enseignements. Et les faux enseignements sont déjà ici. Et Jean dit l'Antichrist est déjà venu. Mais nous devons nous confier à la parole, la sainte doctrine. Et troisièmement et dernièrement, nous devons rendre témoignage du Christ par une vie sainte. C'est notre vie qui est le précieux témoignage. C'est facile de croire que je veux faire une croisade. Nous devons vivre une vie sainte, exemplaire, et une vie qui impacte, une vie qui transforme, une vie qui a de l'influence sur nos familles, nos maisons, sur les écoles où nous étudions, où nous enseignons, et nos milieux de travail. Alors que nous prenons les risques, le professionnel, nous sommes là, vous êtes là. Comment nous les prenons avec le Seigneur et les gens vont apprendre? Et Billy Graham a dit, avant de mourir, je ne suis pas en train d'aller au ciel. Parce que j'ai prêché l'évangile à des multitudes. Je suis en train d'aller au ciel juste comme le voleur à la croix. Le voleur qui a recherché Dieu jusqu'à la dernière minute et qui dit, souviens-toi de moi Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et nous allons répondre à ce message. En disant, il est temps que nous soyons des disciples qui contaminent. En éclairant le corona à tel monde. Comment notre vie est en train d'atteindre les extrémités de la terre. Chacun de nous va élever sa voix. Et je vais prier pour tout celui qui aura élevé sa voix, crier à Dieu de l'aider, de faire de lui un disciple, faiseur de disciples. Prions le Seigneur.